Bonjour à toutes et à tous. Bonne année. On peut encore le dire au mois de janvier, donc bonne année. J'espère que 2022 a bien démarré pour vous. J'espère. C'est le cas. Rassurez-moi. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons que Dieu te bénisse? Qu'est-ce que nous avons en tête lorsque nous disons cette phrase? Que Dieu t'apporte des bénédictions matérielles? Que Dieu te rende prospère? Que Dieu te fasse du bien? Que Dieu agisse en ta faveur? Quel est donc le sens de cette formulation lorsque nous l'utilisons? Essayez d'y réfléchir un petit peu. Lorsque vous dites à quelqu'un que Dieu te bénisse, qu'est-ce que vous avez en tête? Vous pensez à quoi? En début d'année, il est courant de penser à nos projets pour 2022 et même d'en parler, de se souhaiter mutuellement du succès dans nos entreprises et dans nos réalisations. Et en ce début d'année, et pendant quelques semaines, je vous propose de nous focaliser non pas sur nos réalisations ou nos projets, mais sur ce que Dieu a déjà fait, sur ce que Dieu a déjà réalisé pour nous, sur son grand projet, sur son plan de salut. Que nous comprenons mieux aujourd'hui parce que Jésus est déjà venu dans le monde. Et durant plusieurs semaines, nous étudierons l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est pour ça que nous avons lu ce texte juste avant. Nous allons étudier cet épître du début à la fin, parce que c'est là qu'il est question du plan de Dieu, de Christ et de l'Église. C'est un petit peu les grands thèmes que nous retrouvons dans cet épître. Cette épître très, très importante de l'apôtre Paul que nous allons étudier. Au moment où Paul rédige sa lettre, il est en prison, sans doute à Rome, vers 62 après Jésus-Christ. Il est presque vers la fin de sa vie, il ne le sait pas encore, mais il est presque vers la fin de sa vie. Et donc, on peut imaginer un Paul qui a beaucoup mûri dans sa réflexion, dans sa théologie, dans ce qu'il comprend du plan de Dieu. Et c'est un Paul qui est mature dans la foi qui écrit cette lettre. Et déjà, si nous lisons le premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Eh bien là, ce premier verset pose déjà quelques soucis, en tout cas entraîne des discussions entre les spécialistes par rapport aux destinataires de cette lettre. Comme vous le voyez ici, à Éphèse est entre crochets pour indiquer que cette mention n'est pas présente dans tous les manuscrits. Il y a des manuscrits qu'on a retrouvés de la lettre aux Éphésiens où il n'y avait pas cette mention, alors que d'autres la comportaient. Et certains en ont déduit que si on pouvait retrouver des lettres qui n'avaient pas cette mention, cela voulait dire que c'était une lettre qui circulait parmi les églises, qui était destinée à plusieurs églises. D'autres ont maintenu le fait que les premiers destinataires étaient bien les Éphésiens et qu'à partir de là, ils ont produit des copies qu'ils ont ensuite transmises à d'autres églises dans la région d'Asie mineure, donc au niveau de l'actuelle Turquie. Donc c'est dans cette région-là que, sans doute, il n'y avait pas que les Éphésiens qui ont lu cette lettre, mais bien d'autres chrétiens dans d'autres villes. Et si nous avons l'épître aux Éphésiens dans la Bible, c'est que Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut dire quelque chose à l'Église qui se rassemble à Saint-Maur. Et après avoir souhaité grâce et paix par Dieu le Père et par le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul exprime sa louange à Dieu. Il exprime sa louange pour les bénédictions que Dieu a déversées sur son peuple, sur l'Église qui lui appartient. Et il me semble que nous avons là un exemple à suivre concernant l'apôtre Paul. Parce que, comme Paul, louons Dieu qui nous a tant bénis en Jésus-Christ. Et nous avons déjà un petit peu anticipé sur ce message tout à l'heure dans nos prières et dans nos chants. Louons Dieu qui nous a tant bénis en Jésus-Christ. Et pour en arriver là, nous devons d'abord avoir conscience de quelles sont ces bénédictions que Dieu a à notre égard. Et je vous propose de voir ça ensemble. Commençons par ces bénédictions qui sont évoquées des versets 4 à 14. Il y a quelques semaines, je lisais un article, je l'ai même fait lire à Damaris, sur la tradition d'offrir aux enfants des jouets à Noël. Alors je sais qu'on n'est plus tout à fait dans cette ambiance-là, mais vous pouvez sans doute que vous avez entendu dire ou même constater dans votre entourage l'attitude des enfants d'aujourd'hui quand ils reçoivent leur cadeau de Noël. Certains ont beaucoup de joie à déballer votre cadeau et il ne faut pas longtemps pour qu'ils passent déjà à autre chose, laissant le jouet offert près du sapin. C'est vrai ou pas ? Enfin, en tout cas, on a déjà entendu dire que les enfants pouvaient avoir ce genre d'attitude. Ils sont tout excités à pouvoir déballer un cadeau, mais finalement, ce qu'ils font de votre cadeau, c'est une autre histoire. Et quel contraste quand on pense qu'il y a encore un siècle, l'enfant d'une famille modeste se contentait de recevoir une orange et qu'il était bien content avec ça. Et nous, quelle va être notre attitude alors que nous allons parler des bénédictions de Dieu, des bénédictions que Dieu nous a déjà accordées en Jésus-Christ? Est-ce que nous serons comme l'enfant habitué à être gâté ou bien comme celui qui s'émerveille face au cadeau qu'il reçoit? Quel genre d'attitude allons-nous avoir? Et dans notre cas, nous recevons plus qu'une orange. Et à coup sûr, si nous parlons de la réaction de l'apôtre Paul, il est émerveillé. Il est émerveillé par tout ce que Dieu a bien voulu faire dans sa grâce pour son peuple. Tout ce qu'il a bien voulu accorder à ses enfants. L'apôtre Paul, en pensant à cela, est tout simplement émerveillé. Nous lisons au verset 4, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » La vérité qui est dans ce verset nous montre à quel point Dieu nous voulait. Et pourtant, à bien nous regarder, nous nous demandons encore ce qu'il y a de bien aimable en nous. Après tout, nous sommes des créatures plutôt égoïstes. Nous songeons presque toujours à nos propres intérêts. Nous manquons souvent d'amour. Et nous nous plaignons quand les choses ne se déroulent pas comme nous le voudrions. Les péchés que nous avons commis cette semaine nous rappellent malheureusement cette réalité. Et malgré tout ça, avant de créer l'homme et la femme, avant de créer la nature que nous admirons tant, avant de créer l'univers que nous n'avons pas fini de sonder, avant tout ça, Dieu nous avait choisis. Et il est impensable qu'il se soit trompé dans son choix en ce qui nous concerne. Dieu ne s'est pas trompé en nous choisissant. Mais ce choix n'est pas lié à nos qualités ou à nos mérites. Si notre élection a eu lieu avant la création du monde, cela ne dépend pas de ce que nous pouvons faire de bien aujourd'hui. Ça a déjà été décidé avant. Notez plutôt que Paul écrit que c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'il nous a choisis. C'est grâce à Jésus, grâce à ce qu'il a accompli pour nous, que Dieu a bien voulu nous choisir. Et cela va tellement à l'encontre du discours que nous entendons dans notre société, où il faut faire ses preuves pour être accepté. Que ce soit dans le système scolaire, que ce soit dans nos milieux professionnels, ou encore même au sein de nos familles, et peut-être même au sein de l'Église, faire ses preuves pour être accepté. Partout, nous devons faire nos preuves. Mais Dieu ne nous a pas choisis pour nos diplômes. Dieu ne nous a pas choisis pour nos compétences ou pour ce que nous pouvons réaliser de bien dans notre vie. Non, Dieu ne nous a pas choisis pour ça. Dieu nous a choisis en Jésus-Christ, c'est tout. Et personne d'entre nous, comme ça a été prié aussi, ne peut se vanter. Dieu nous a choisis en Jésus-Christ, c'est tout. Et nous avons été choisis, vous le voyez bien, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Le but du choix de Dieu est que de pécheurs, nous devenions parfaits, sans reproche. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes parfaits, mais pour qu'on le devienne. C'est totalement différent. C'est la transformation que Dieu a déjà amorcée dans notre vie, le jour où nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Cette transformation vers la perfection a déjà commencé. Nous sommes en train de le vivre. Et il nous faut encore progresser cette année, en 2022. Bien sûr, en comptant sur Dieu, pour parvenir peu à peu à ce but, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Lisons la suite. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Le choix de Dieu, en ce qui nous concerne, va jusqu'à établir la relation la plus proche que nous ayons avec notre Créateur. Quelle est cette relation la plus proche avec notre Créateur? Nous le savons bien, tous les hommes et toutes les femmes n'ont pas cette relation d'enfant à père avec Dieu. Cela ne concerne que ceux et celles qui sont enfants de Dieu. Mais par Jésus-Christ, parce que nous sommes solidairement unis avec Jésus, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Tout comme Jésus appelle Dieu Père, nous avons aussi en tant qu'enfants de Dieu ce même privilège d'appeler Dieu Père. Et comme le disait un théologien, Père, je le cite, voilà le nom chrétien de Dieu. Parce que ce sont les chrétiens qui appellent Dieu Père. Dieu nous a destinés d'avance, dans sa bonté, à vivre cette relation père-enfant. Et Yoxas, notre pasteur stagiaire, a travaillé sur ce thème de l'adoption. Et je lui donnerai l'occasion, plus tard dans l'année, de pouvoir nous enseigner plus amplement sur ce sujet. Le fait que Dieu nous ait adoptés et fait de nous ses enfants, c'est totalement incroyable. Parce que tous les hommes n'ont pas cette même relation avec Dieu. Mais poursuivons. En Christ, verset 7, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous avec surabondance. Il est question à présent de ce que Jésus a accompli pour nous. Il s'est offert en sacrifice. Littéralement, par son sang, nous avons obtenu la délivrance. Nous avons été rachetés. Alors que nous étions esclaves de notre péché et condamnés à en payer le prix, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour payer ce prix, pour donner sa vie en rançon. Et ainsi, nous sommes libérés de notre ancienne condition et pardonnés de nos fautes, de toutes nos fautes. C'est nous qui avons transgressé la loi de Dieu et pourtant c'est lui, Christ, qui en subit le châtiment. À notre place. Et ainsi, justice a été faite. Et c'est là, en réfléchissant à ça, que nous mesurons une fois de plus la richesse de la grâce de Dieu. Le fait que nous ne méritons pas un tel amour et un tel pardon. Et Paul utilise les termes nécessaires pour décrire la faveur imméritée de Dieu à notre égard. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous avec surabondance, pas juste avec abondance, avec surabondance. Que demander de plus? Est-ce qu'on oserait demander quelque chose de plus? Et voici la bénédiction qui suit au verset 8. Et il a répondu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Dans sa grâce, Dieu nous révèle ce que nous n'aurions pas pu comprendre par nous-mêmes. Il nous a accordé suffisamment de sagesse et suffisamment d'intelligence pour comprendre ce plan que Dieu avait en lui depuis toujours. Et dans cette traduction, il est question du secret de Dieu ou du secret de son plan. Dans d'autres versions, vous avez le mot « mystère ». Et quand l'apôtre Paul évoque le mystère de Dieu, il fait référence à ce qui ne peut être compris que si Dieu nous le révèle. Un mystère, dans le vocabulaire biblique, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre seulement si Dieu nous l'explique et nous le révèle. Quel est donc ce plan de Dieu ? Quel est donc ce grand projet dans lequel nous nous trouvons en ce moment ? Et comme nous l'avons vu l'année dernière, notre Dieu dirige l'histoire du monde. Et au terme de cette histoire, tout ce qui est au ciel, le monde invisible. Et tout ce qui est sur la terre, le monde visible. Eh bien, tout cela trouvera sa place en Christ. L'harmonie qui régnait au début de la création et qui a été brisée par le péché sera restaurée parce que Christ sera reconnu comme roi par toute la création, y compris par ceux qui auront été rebelles à lui durant cette vie. Bien sûr, ils ne seront pas sauvés, mais toute langue confessera que Jésus est Seigneur. À la fin de ce monde qui est marqué par le péché, il n'y aura plus de division, plus de tension, plus de conflit. L'harmonie sera totale en Christ. C'est le plan que Dieu nous dévoile dans sa parole. Et nous nous dirigeons dans cette direction. Et si je pensais à ce grand projet de Dieu pour établir mes projets de cette année, si je m'inspirais du projet de Dieu pour réfléchir à ce que pourraient être mes projets cette année. Parce que dans tous les cas, c'est son projet qui se réalise. Et en même temps, nous vivons déjà quelque chose de cette harmonie qui sera totale à l'avenir, mais qui pour l'instant est partielle. Parce qu'en Christ, nous sommes unis les uns avec les autres. Est-ce que vous avez pensé à ça ? L'Église est la preuve visible et vivante que Dieu peut, que Christ peut réunir des gens totalement différents. Et qu'il y ait de l'harmonie entre ces gens. Et que ces gens même puissent s'aimer et partager la même foi. L'Église est la preuve vivante et visible que nous vivons déjà cette harmonie qui commence autour de Christ. Mais un jour, cette harmonie sera totale. Nous vivons en avant-première ce qui sera une réalité pour tout l'univers. Est-ce que vous mesurez le privilège ? Et ce n'est pas fini. Verset 11, « Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. » Nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. À partir du verset 11, Paul distingue les chrétiens d'origine juive, qu'il signale par un « nous », puisque Paul était lui-même d'origine juive, et les chrétiens d'origine païenne, qu'il signale par un « vous » et que l'on verra au verset 13. Et cette distinction, il ne la fait pas pour dire que Dieu nous traite différemment chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine non juive. Bien au contraire, il est question pour les uns comme pour les autres de recevoir un même héritage. C'est vrai que les chrétiens d'origine juive avaient déjà une espérance, une attente par rapport au Messie, que n'avaient pas les non-juifs. Puisque les prophètes ont annoncé longtemps à l'avance qu'un Messie devait venir, que des temps messianiques devaient avoir lieu, eh bien, les juifs, et bien sûr les chrétiens d'origine juive, avaient cette espérance, cette attente déjà. C'est pour ça qu'il est dit au verset 12 que nous, qui les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Mais au bout du compte, ils reçoivent en Christ leur part d'héritage, selon la décision de Dieu. D'autres traductions suggèrent qu'en Christ, ils sont l'héritage de Dieu, la possession de Dieu. Et c'est vrai que dans la traduction, on peut hésiter. Est-ce que nous avons notre part d'héritage ou est-ce que nous sommes l'héritage de Dieu ? Et en fait, ce qui est intéressant avec cette hésitation dans la traduction, c'est que les deux sont vrais. Les chrétiens en Christ ont leur part d'héritage, et en Christ, ils sont l'héritage de Dieu. Alors, ça nous semble peut-être un petit peu bizarre de dire que Dieu a un héritage, mais c'est bien comme ça que les choses sont exprimées dans sa parole. Dieu a un héritage qu'il s'est réservé, c'est son peuple. Voyez par exemple dans l'Ancien Testament comment Moïse parle justement de cet héritage. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 9, nous lisons « En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, pour désigner le peuple d'Israël, Jacob est sa part d'héritage. » Et nous parlons de Dieu. Dieu a comme héritage son peuple. Quel privilège, soit d'avoir part à l'héritage de Dieu, soit d'être nous-mêmes l'héritage de Dieu. Mais cela n'est pas seulement le privilège des chrétiens d'origine juive. Parce que si nous lisons la suite, il est question aussi des chrétiens d'origine non juive. Et en Christ, vous aussi, Paul s'adresse aux Éphésiens. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Et sans doute que l'église d'Éphèse était majoritairement composée de chrétiens d'origine non-juive. Et nous nous rappelons nous-mêmes que nous sommes d'ailleurs tous des non-juifs. Aux Éphésiens, Paul rappelle qu'ils ont entendu l'évangile. Et c'est ce qui les a sauvés. En entendant qu'ils pouvaient obtenir le pardon de leurs péchés, qu'ils pouvaient être réconciliés avec Dieu grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, ils ont cru. Ils ont mis leur confiance en leur nouveau Sauveur. Et comme pour les chrétiens d'origine juive, ils ont reçu l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, qui atteste qu'ils sont à lui maintenant. Voilà le sceau qui marque notre appartenance à Dieu. Tous les chrétiens, tous, ont reçu l'Esprit Saint qui indique qu'ils sont à Dieu, qu'ils sont son héritage. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Verset 14, parce que ce n'est pas fini. Cet Esprit constitue l'acompte. J'espère que vous savez tous ce qu'est un acompte. Constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. C'est une merveilleuse bénédiction de recevoir l'Esprit de Dieu. Et en même temps, c'est un acompte. Un premier versement d'un héritage qui dépasse notre pensée. Nous avons pour l'instant juste un acompte. Et cet acompte nous donne déjà l'assurance que Dieu ira jusqu'au bout de sa délivrance, jusqu'au bout de son salut, jusqu'à nous libérer totalement, complètement du péché et de ses conséquences. Nous avons juste un acompte, mais qui nous promet bien de grandes choses. Et nous attendons encore cette délivrance. Ici-bas, nous ne vivons qu'un avant-goût de tout ce qui nous attend, mais déjà, que de bénédictions pour cette vie. Avons-nous conscience de toutes ces bénédictions que j'ai évoquées, qui sont bien les nôtres, si notre foi est placée en Jésus-Christ ? Rappelons-nous que Paul pense à toutes ces bénédictions alors qu'il est lui-même en prison et qu'il ne connaît pas son sort à venir. Mais il pense à ces bénédictions et il veut inclure les Éphésiens à penser, à réfléchir à ces bénédictions. Et le minimum pour nous cet après-midi, c'est de prendre de nouveau conscience de ces bénédictions qui sont bien les nôtres. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes déjà richement bénis. Est-ce que, juste comme ça, vous pouvez me redire quelles sont les bénédictions que nous avons évoquées ? Alors, vous en avez déjà un ici. Alors, on a l'élection, la connaissance de son plan, oui, l'adoption, bon, il y a l'héritage, et la délivrance, le pardon des péchés. Et je vais m'inspirer de ce qu'un commentateur... Un commentateur récent de cet épître a pu trouver, que je trouve ingénieux et qui nous sert à pouvoir retenir aussi, Dominique Anger, qui a écrit un commentaire à ce sujet et qui nous propose cet acronyme, cadeau. Le mot cadeau parce que nous avons été choisis, parce que nous avons été adoptés, délivrés, éclairés, parce que nous connaissons le plan de Dieu, acquis, nous sommes à lui, et parce que nous sommes par-dessus tout, unis à Christ. C'est le cadeau que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Et tout de suite, vous repensez peut-être à l'histoire des cadeaux que les enfants reçoivent, etc. Si nous recevons un tel cadeau, quelle est notre attitude ? Est-ce que nous pouvons encore nous plaindre, nous dire « donne-nous plus encore ». Nous avons déjà ce cadeau. Mais ne nous arrêtons pas juste à regarder ce cadeau, mais revenons à ce qui pousse Paul à écrire tout cela aux Éphésiens. Et c'est là où je veux en venir, concernant le message central de notre texte. Parce que Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ça, nous pouvons le dire tous les jours. Et bien qu'en prison, Paul écrit cela. Il exprime sa louange à Dieu. Béni soit Dieu dans le sens « loué soit Dieu » pour toutes ces bénédictions qui sont nôtres. Parce que nous sommes liés à Christ, unis avec lui, par son esprit. C'est le cadeau qui vient de notre Père, qui est aussi le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu mérite bien la louange pour toutes les bénédictions que nous avons évoquées. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-il question ici du monde céleste ? Eh bien, comme nous l'avons vu, c'est Jésus-Christ qui nous a acquis un tel cadeau. Or, Jésus règne assis à la droite de Dieu, dans le monde céleste. Et tant qu'il est au ciel, toutes nos bénédictions sont garanties en lui. Et voici quelque chose que nous disons peu en ce qui nous concerne. Mais plus loin dans sa lettre, l'apôtre Paul déclare ceci. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres, c'est-à-dire qu'il nous a fait passer de la mort à la vie, et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. » Est-ce que cet après-midi, vous avez l'impression d'être assis dans le monde céleste ? On aimerait bien, n'est-ce pas ? Mais cette formulation nous montre à quel point nous sommes unis à Jésus, lui qui est bien assis dans le ciel et qui nous représente. Nous pourrions dire en quelque sorte qu'en lui, nous avons déjà un pied au ciel, ou même les deux, parce qu'il nous représente. Alors nous siégeons aussi, les uns les autres, dans le monde céleste. J'ajouterai encore une remarque. Vous êtes sans doute aperçu qu'il y avait un refrain dans les versets que nous avons abordés tout à l'heure. Alors en fait, il y a plusieurs refrains, mais je fais référence notamment à ce refrain. À partir du verset 6, nous voyons que nous avons été adoptés afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Au verset 12, nous avons reçu notre part d'héritage destinée d'avance à célébrer sa gloire. Et puis notre texte se termine au verset 14 en disant « Tout aboutit à célébrer sa gloire ». Pensez-vous que ce refrain soit par hasard ? S'il y a une chose qui caractérise le peuple de Dieu, c'est qu'il célèbre Dieu. C'est qu'il reconnaît que la gloire revient à Dieu seul. Et Dieu a choisi dans son amour de faire de nous ce peuple qui le célèbre, qui s'intéresse à sa gloire, qui vit pour sa gloire. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui fait son éclat, tout ce qui fait sa grandeur, tout ce qui fait sa majesté. Et nous pourrions encore rallonger cette définition. Il nous a choisis pour que nous le célébrions. Non seulement chaque dimanche, lorsque nous nous retrouvons ici, et que nous évoquons tout ce qu'il a fait, mais aussi chaque jour de la semaine, chaque jour de notre vie. Célébrons sa gloire en nous souvenant de son cadeau, en nous souvenant de sa grâce surabondante, en nous souvenant de ses bénédictions en Christ qui dépassent de loin les bénédictions matérielles. Nous avons des raisons d'être toujours reconnaissants envers Dieu au-delà de notre bonne santé, au-delà de notre bien-être, au-delà de nos bonnes conditions de vie. Nous avons d'autres raisons de bénir Dieu. Des raisons bien plus importantes, bien plus élevées, et que nous ne méritons surtout pas. Tout comme d'ailleurs nos bénédictions matérielles. Alors que nous puissions dire un peu plus souvent, et c'est peut-être là-dessus que nous pouvons prier un peu plus souvent dans ce sens-là. Merci notre Dieu de nous avoir choisis en Jésus-Christ. Est-ce que vous le dites souvent ça ? Merci notre Dieu de nous avoir choisis en Jésus-Christ. Merci notre Père de nous avoir adoptés par Jésus-Christ. Merci de nous avoir délivrés de notre vie d'avant et d'avoir dans ta grâce pardonné nos fautes, car tu as accepté que Jésus donne sa vie pour nous. Ça peut-être que nous le disons un peu plus souvent. Est-ce que nous prions aussi dans ce sens-là ? Merci de nous avoir accordé l'intelligence de comprendre que ton plan consiste à ce que tout soit harmonieusement réuni en Christ. Merci pour l'héritage que tu gardes en réserve pour nous. Merci pour avoir fait de nous ton héritage. Ou encore, merci pour ton esprit, qui est à la fois le sceau qui atteste que nous sommes à toi et l'acompte de ce qui est à venir. Et je crois qu'en matière de prière, nous avons encore besoin d'apprendre à prier de cette manière-là. En 2022, mes frères et sœurs, malgré la situation pandémique, qu'elle s'arrange ou non, nous aurons toujours des raisons de célébrer Dieu. Alors oui, comme Paul, louons Dieu qui nous a tant bénis en Jésus-Christ. J'en arrive au bout. Pour conclure, cette semaine, prenez le temps de relire ces versets. Prenez le temps de réfléchir sur ces bénédictions. Peut-être à raison d'une par jour. Bénédiction que Jésus nous a acquise au prix de sa vie, en mourant pour nos péchés à la croix et en étant ressuscité pour nous mettre au bénéfice de sa mort. Prenez le temps de vous émerveiller de notre union avec Christ, parce que c'est en vertu de cela que Dieu nous a choisis, et non pas parce que nous aurions fait quoi que ce soit de bien. Prenons le temps de penser à la grâce que Dieu a manifestée envers nous, en nous choisissant, en nous pardonnant, en nous offrant une nouvelle vie, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Et enfin, au terme de cette méditation, si vous la faites cette semaine, prenez le temps de louer notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous trois impliqués dans notre salut. Et je suggère même, ce n'est qu'une proposition, je suggère même d'écrire un texte où vous bénissez Dieu pour le merveilleux salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ, en réponse à sa parole. Prenons le temps de le faire. Parce que ces bénédictions, ces cadeaux, nous pouvons parfois nous comporter comme l'enfant qui a l'habitude d'être gâté et laisser ce cadeau de côté. Mais prenons le temps de revenir sur ce texte, de relire ces bénédictions qui sont nôtres grâce à Jésus-Christ. C'est une bonne manière, il me semble, de poursuivre ce début d'année en célébrant Dieu. Amen. Prions ensemble. Comme l'apôtre Paul, nous te bénissons, notre Père, toi qui nous as bénis de toute bénédiction. Et effectivement, nous ne manquons de rien. Nous sommes infiniment comblés. Et merci parce que toutes ces bénédictions, nous les avons en Jésus-Christ, grâce à lui, grâce à son œuvre, grâce à ce qu'il a accompli à la croix, et il a tout accompli à la croix, grâce à sa résurrection qui nous donne cette espérance que oui, nous aussi, nous connaîtrons cette résurrection. Oui, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as tant donné et que parfois, nous sommes encore capables de faire preuve d'ingratitude et de nous plaindre. Mais tu nous as fait ce cadeau et nous voulons le chérir. Et nous voulons te bénir chaque jour de notre vie à ce sujet. Merci pour ce plan que tu as réalisé en Jésus-Christ et que tu continues de réaliser, dans lequel nous sommes bel et bien impliqués. Et quoi qu'il arrive, et c'est ce qui fait notre espérance, tout sera harmonieusement réuni en Christ. Et merci déjà de nous faire bénéficier de cela dans l'Église, de déjà pouvoir vivre cette harmonie entre nous alors que nous sommes si différents les uns et les autres. Mais en Christ, eh bien les barrières tombent. En Christ, nous sommes vraiment bénis. Et pour cela, encore une fois, nous voulons te remercier, Père, et tous ensemble, au nom de Jésus. Amen.